Voilà, alors je vais essayer de vous parler du dialogue. Donc il y aura des questions après, faciles j'espère. En tout cas, donc voilà. Et Père Pierre-Marie m'a dit aussi que, en fait, ce serait bien peut-être que je parle un peu du pardon. Bon, on ne pourra pas dire tout hein, en une heure, mais bon, éventuellement, pour telle ou telle question, on verra le temps. Donc, je parle jusque 3h moins le quart, peut-être, et puis après, vous posez des questions, ou comment on part de ce principe-là, et puis voilà. Alors, le dialogue. Un peu le. Déjà, toujours la finalité. Et à quoi ça sert? Quel est le but si on choisit le dialogue? Parce que je pense que le dialogue, c'est pas d'abord pour. Même si ça peut aider, pour résoudre les problèmes ou pour, dans un but d'efficacité. Mais je pense que c'est justement pour promouvoir la communion entre les personnes. Dialogue, hein, ça vient de deux mots. Le logo, c'est dia. C'est grâce à la parole qu'on franchit une certaine distance qui nous sépare de l'autre. Alors, donc le dialogue comme instrument de communion. Alors donc, on dit dans le texte, dans l'évangile, que les époux deviennent un par le mariage. La boutade qui est de dire, mais lequel des deux? Lequel des deux? Justement parce que, alors surtout au début du mariage, quelquefois il peut y avoir une tentation d'une forme de fusion, et ça marche pas très bien. Et ce qui arrive dans beaucoup de couples, c'est un peu fusionnel au point de départ, et puis après chacun retrouve un peu son indépendance, mais du coup ça devient un peu l'individualisme, donc ça. Et c'est pas l'idéal non plus. Et le dialogue, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour faire grandir cette communion entre les personnes qui restent différentes. La semaine dernière, donc dimanche dernier, on célébrait la Trinité. Alors, pour nous, c'est un mystère central, mais qui, pour notre foi chrétienne, de l'unité dans la distinction, dans la différence. Trois personnes unies, mais distinctes. Et quelquefois, on voit que justement, on peut rechercher une certaine unanimité, mais qui est pas du tout bonne, dans le sens où on supprime un peu les motifs d'opposition, et il y en a un qui doit un peu plier sa personnalité, ou recroqueviller sa personnalité, pour se soumettre aux désirs et aux caprices de l'autre. Alors donc, la volonté de Dieu, en tout cas dans le mariage, c'est pas que, quand il désire qu'il fasse un, c'est pas qu'il soit uniforme et identique l'un à l'autre, de toute façon on n'y arriverait pas, mais que chacun garde sa personnalité. Alors donc, le dialogue comme instrument pour, dans cette voie de la communion. Un point sur lequel j'ai peut-être davantage réfléchi en préparant ce topo, c'était sur la question de la liberté. Dans le sens où, bon, je crois que vous avez, Père Pierre-Marie a commenté ce matin l'échange des consentements, mais il y a un dialogue préalable à l'échange des consentements, et toujours la première condition, ça porte sur la liberté. Et ce qui me frappe de plus en plus, mais aussi en vie communautaire, je pourrais vous prendre des exemples de la vie communautaire peut-être après, mais ce qui me frappe de plus en plus, c'est l'importance de cette liberté. Alors, donc avant le sacrement, on demande, mais est-ce librement et sans contrainte que vous voulez vous donner à l'autre? Alors c'est vrai, pour le moment où on scelle, ça ne serait pas valide le mariage si c'était sous la contrainte. Mais c'est vrai pas seulement à ce moment-là, c'est vrai aussi après. Est-ce que je laisse l'autre libre de se donner? Et pour le point particulier du dialogue, alors c'est en même temps quelque chose de difficile, parce qu'on ne force pas quelqu'un à dialoguer si l'autre n'a pas envie de parler. ou a pas envie d'écouter, ben voilà, ça se termine là, quoi. Le dialogue, ça suppose que les deux aient aussi un certain désir de dialoguer. Mais on ne peut pas forcer non plus quelqu'un à dialoguer. Alors, ce qu'on peut faire, justement, c'est montrer à l'intelligence de l'autre que c'est important de dialoguer, ça on peut montrer. On peut essayer de le montrer, pas de façon agressive, mais on peut essayer de le montrer. Et puis, deuxième chose aussi, si l'autre n'a pas envie de dialoguer, voir peut-être pourquoi il n'a pas envie de dialoguer. Alors, toutes les peurs, tout ça qui peuvent être présentes et qui le paralyse ou qui l'empêche d'entrer dans le dialogue. Alors donc, ça peut être d'une façon plus positive, c'est d'éclairer l'intelligence, et une autre façon, c'est d'enlever les obstacles au dialogue, essayer autant qu'on le peut, de voir mais qu'est-ce qui bloque l'autre et qui fait qu'il n'a pas envie de parler, et alors qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux jouer, alors j'essaierai d'évoquer telle ou telle chose qui met l'autre davantage à l'aise aussi pour dialoguer. Alors ça, c'était donc le dialogue comme un instrument de communion, la liberté, et puis un troisième point encore préliminaire, c'est sur la volonté. Parce que si on ne veut pas, le dialogue ça se fera pas tout seul. Il y a besoin de le vouloir. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont lu ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez toujours le faire. Je l'évoquerai peut-être à tel ou tel moment de mon topo. Mais à un certain moment, il distingue le coup de foudre de l'amour véritable. Alors il dit qu'il faut passer d'un amour obsessionnel, ça ne fait pas très positif, ça sonne pas, à un amour de volonté. Et alors il met trois distinctions entre cet amour un peu obsessionnel et puis cet amour de volonté, entre le coup de foudre et l'amour. La première différence, c'est qu'il y en a un qui ne procède pas de la volonté. Bon, c'est plus fort que nous, on aime l'autre. Tandis que donc, le véritable amour procède de la volonté. Deuxième différence, c'est qu'il y en a un qui ne demande aucun effort, tandis que l'autre, il exige un effort, il exige aussi une certaine discipline pour aimer l'autre. Et troisième différence, intéressante aussi, c'est que dans le coup de foudre, on pense déjà être arrivé au septième ciel, tandis que dans l'amour, on sait qu'on a encore à grandir, personnellement et ensemble. Je pense que c'est intéressant. Alors, en tout cas, cette volonté qui est essentielle pour entrer dans le dialogue. S'il n'y a pas la volonté au point de départ, bon, c'est un peu peine perdue. Alors, je trouve que notre époque est assez passionnante, difficile, mais aussi assez passionnante dans le sens où il y a le meilleur et le pire. Mais on a aussi des instruments qui sont beaucoup plus à notre portée qu'il y a 50 ans pour pouvoir, notamment sur cette question du dialogue, justement, on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne, et donc on a quand même des instruments qui peuvent nous aider à dialoguer plus profondément. Après, il faut avoir la volonté, mais la volonté, ce n'est pas simplement le fait de dialoguer, le désir de dialoguer, c'est le désir de prendre les moyens de dialoguer. Donc, Alors, Gary Chapman, dans son livre aussi, évoque cette question, justement, quand l'autre n'est pas aimable, quand il y a vraiment un moment difficile dans un couple, et là, il recourt à l'évangile. Je vous dis à vous tous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, il l'applique à la vie conjugale, dans certains cas un peu extrêmes. Donc c'est dans Saint Luc au chapitre 6 de Saint Luc, bon, des versets 27 à 38 dans ce mode. Et justement c'est cette décision d'aimer, cette volonté d'aimer l'autre, même si l'autre au point de départ n'a pas tellement envie, c'est alors Gary Chapman, en tout cas dans son livre sur les langages de l'amour, cette volonté, elle s'exerce sur le fait d'apprendre le langage d'amour auquel le conjoint est sensible et d'apprendre à lui parler pour petit à petit le rendre, l'ouvrir peut-être au dialogue si au point de départ il n'est pas ouvert. Voilà. Je vais peut-être pas prolonger là-dessus. Alors, donc ça c'était un peu des préliminaires. Maintenant, pour le dialogue, je pense que c'est bien de distinguer différents niveaux de dialogue. Il y a une... On peut dialoguer, parler plus au niveau des sentiments qu'on éprouve ou parler plus au niveau des idées. Pour, alors, je vais évoquer d'abord la question des sentiments qui est importante aussi parce que... Parce que souvent, très souvent, surtout dans la vie communautaire ou conjugale, c'est pas forcément sur une idée qu'on se bloque l'un vis-à-vis de l'autre, mais peut-être qu'on refuse une idée ou on refuse une décision, mais derrière, il y a, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui n'est pas au point. Alors, donc, au niveau des sentiments, je pourrais distinguer un peu deux choses. Déjà, soi-même, apprendre à être attentif à ses sentiments. Bon, il ne s'agit pas de s'ausculter ou de se prendre le pouls toutes les 5 minutes non plus, hein, c'est pas ça, mais quand même, être attentif d'apprendre à se connaître aussi, à pas faire passer trop vite sur ce qu'on ressent. Les sentiments, en tant que tels, ne sont ni bons ni mauvais. C'est comme des voyants, sur le tableau de bord. Ça nous indique quelque chose. Bon, après, qu'est-ce qu'on va en faire? Il ne faut pas forcément suivre immédiatement le sentiment et tout ça. Bon, on est des êtres rationnels aussi. Mais il faut aussi apprendre à écouter ses sentiments. Les femmes sont peut-être plus douées que nous pour ça, je ne sais pas. Mais apprendre à écouter ses sentiments. Parce qu'elles révèlent des besoins qui sont en nous. D'ailleurs, dans son fameux livre là, de Gary Chapman, une des choses fondamentales sur laquelle il insiste, c'est de percevoir quel est mon langage d'amour, justement. Quels sont les gestes, les attitudes de l'autre qui me font savoir que je suis aimé. Et selon les personnes, c'est assez différent, mais c'est important de le savoir pour soi. Qu'est-ce qui me fait du bien dans ce que me fait mon conjoint? Et qu'est-ce qui me fait au contraire du mal ou... Parce que le fait de le savoir, après, ça me permet de le dire aussi à l'autre. Mais si je ne le sais déjà pas moi-même, j'aurais du mal à me faire connaître aussi à l'autre, à lui donner mon mode d'emploi en quelque sorte. Et c'est très important aussi, pour une autre raison aussi, de faire un peu plus attention à ce qu'on ressent, c'est aussi quand on entame un dialogue, justement, il y a un peu deux façons de l'entamer. Soit on s'adresse à l'autre, tu m'énerves quand tu fais telle et telle chose, bon. Alors, comme on dit, le tu. Ou alors, ça c'est une façon de faire, une autre façon, ben, quand tu fais telle et telle chose, alors je ressens telle et telle... voilà. Et là, on ne met pas en cause forcément l'attitude de l'autre, on lui dit simplement, brut, ce que ça provoque en nous. Parce que l'autre ne se rend pas forcément compte. C'est la mauvaise heure. Hein, Mais alors, je prends un petit exemple, mais stupide, mais... un jour, une dame venait parler. Alors, c'était une dame qui vivait, qui avait déjà été mariée, qui vivait avec quelqu'un d'autre. Et ce monsieur, sitôt qu'il prenait un verre de vin, elle devenait folle, quoi. Bon, lui, mais boire un verre de vin, bon, il n'y a pas de mal, quoi. Mais elle lui avait sans doute pas dit que l'homme qu'elle avait connu avant, en tout cas, bon, il était ivre mort et puis il devenait violent dans ces circonstances-là. Bon, alors, effectivement, si on dit un petit peu ce qu'on ressent, bon, c'est plus ou moins rationnel ou tout ça après, mais l'autre, il peut aider, il peut comprendre mieux les réactions aussi. Alors nous, parce que toutes nos réactions, malgré tout, on n'est pas déconnecté de notre passé. Alors il y a des choses, aussitôt, ça nous donne, ça fait monter le taux d'adrénaline ou je ne sais pas. Mais alors c'est bien de le dire à l'autre, bah, quand tu fais telle et telle chose, bah, voilà ce que ça provoque en moi. Après, tu fais quelque chose, tu ne fais pas quelque chose pour changer, après c'est une autre. Mais on dit déjà notre besoin à l'autre, quelque part. Ça, c'est quelque chose. Oui, dans la vie communautaire aussi, je ne vais peut-être pas prendre des foules d'exemples, mais ça, c'est. Si on ne dit pas ce que ça provoque en nous, c'est aussi se reconnaître vulnérable. Quand on dit à l'autre, bah, quand tu fais telle et telle chose, bah, voilà, j'y peux rien, ça me met dans tous mes états. C'est pas forcément, bah, je le contrôle pas forcément bien, ou voilà, je suis pas en bois. Voilà ce que ça provoque en moi. Alors ça, c'était déjà être sensible à ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, et pour pouvoir l'exprimer à l'autre et que l'autre, on lui permet de connaître un petit peu ce qui se passe en nous. Une deuxième chose, c'est aussi de dire aussi ses sentiments à l'autre, les sentiments qu'on éprouve à son égard. C'est plus le domaine de la tendresse sous toutes ses formes. Alors c'est là que bon, c'est le livre de Gary Chapman avec les langages de l'amour où il évoque beaucoup ça. Comme dit aussi Don Bosco pour les enfants, il dit, ça suffit pas d'aimer les enfants qui vous sont confiés. Bon, c'est bien de les aimer. Mais il faut que les enfants sachent que vous les aimez. Aimer, c'est une chose, mais justement, on ne doit pas se contenter d'aimer son conjoint, mais on doit trouver les gestes, les attitudes, les paroles qui lui font comprendre qu'on l'aime. Je pense à une jeune femme qui. Ça avait un côté un peu tragique. Dans le sens, je crois qu'elle aimait beaucoup, beaucoup son mari, hein, il n'y avait pas aucune espèce de doute là-dessus. Mais elle s'y prenait pas forcément bien. Et alors lui, au petit déjeuner, elle venait déjà l'assaillir de sa tendresse, tout ça. Lui, il avait besoin surtout d'émerger, d'être un peu au calme. Alors, bon. Et du coup, il réagissait pas forcément bien. Et la journée commençait pas bien. Alors, c'est. Mais le fait tout simplement de comprendre, ben, mon mari ne fonctionne pas forcément comme moi, ou je sais pas, ou inversement aussi, ben, ça peut déjà les aider parce que du coup, plus il y avait un problème, plus elle en rajoute une couche. Et plus lui, ça l'énervait et tout ça. Bon, donc, c'est aussi trouver ce qui. Ah, je vais prendre un exemple de la vie communautaire, bon, qui vaut ce qui vaut, hein. Vous n'êtes pas obligé de les répéter après,
Non,
hein.
non, non. Et c'est pas forcément à vous.
Pardon?
C'est pas forcément votre communauté.
Ah non, oui, bien
Non,
sûr, bien
c'est.
sûr. Je pense à un frère hypothétique. Sa façon de manifester qu'il est attentif, c'est on arrive au petit déjeuner. Il nous voit, il nous apporte ce dont on pourrait éventuellement avoir besoin. Donc, je sais pas, une boîte de chocolat, le café, le beurre, la confiture, tout ça. Bon, alors, si on décrypte, bon, on se dit, bah, c'est sympathique, il est. Mais c'est quand même agréable de se faire servir. Mais je vois la réaction que ça provoque vis-à-vis. Je vois dans d'autres communautés, tout ça, vis-à-vis d'autres frères, qui se disent, mais ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, j'ai jamais mangé de chocolat, pourquoi il m'apporte la boîte de chocolat? Il aurait pu remarquer que. Alors c'est voir ce qui fera plaisir à l'autre. Et je pense que notre volonté, elle est là aussi pour pas simplement vouloir aimer l'autre à notre façon, C'est là qu'il faut bien lire aussi le passage évangile. Aimer l'autre comme soi-même, ça ne veut pas dire faire ce qui me fera plaisir à l'autre. C'est ce qui fera plaisir à l'autre, mais pas forcément projeter sur l'autre. Tiens, telle ou telle chose me ferait plaisir, donc je l'offre à l'autre. Peut-être que l'autre, ça ne lui fait pas du tout plaisir. Mais souvent, on le lit de façon un petit peu littérale, cette parole de Jésus, alors que ce n'est pas ça. Il faut voir qu'est-ce qui vraiment fait plaisir à l'autre, pas ce qui... Et du coup, dans tout ce livre, là, les langages de l'amour, il nous aide bien à voir, mais non, il faut essayer de voir, se décentrer de soi-même pour voir, pour exprimer vraiment la tendresse, mais une tendresse qui parlera à l'autre, pas la tendresse qui me... Et ça, je pense qu'on est quand même dans le dialogue, il faut se faire comprendre à l'autre. Les langages de l'amour, il faut prendre un langage aussi qui est compréhensible par l'autre. Si on lui parle un langage qu'il ne comprend pas, le dialogue commence mal. Voilà. Alors là, c'était plus au niveau des sentiments déjà qu'on éprouvait soi-même et des sentiments qu'on éprouve par rapport à l'autre. Mais bien sûr, il suffit pas non plus de le dialogue, ça se réduit pas à un échange au niveau des sentiments, même si encore une fois les sentiments ont une grande importance. Le dialogue c'est au niveau des idées aussi, et c'est important aussi de bien distinguer le niveau plus des sentiments et de la tendresse du niveau des idées. Parce que très souvent, on voit bien, ça c'est typique des fiancés, il y a un petit problème qui se profile, et quelque part, ils approfondissent pas la question. Ils font quelques bisous, et puis ils pensent que le problème est réglé. Mais rien n'est réglé pour autant. Bien sûr, c'est bien de manifester de la tendresse à l'autre, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a des choses, ça ne se résout pas au niveau des sentiments. Il faut aussi pouvoir en parler, on a une intelligence aussi pour ça. Donc, c'est bien de... Alors, c'est clair qu'un dialogue au niveau des idées se passe mieux si c'est dans un climat plutôt de tendresse, et bon, ça c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas résoudre une difficulté, peut-être d'ordre plus de compréhension, de décision à prendre, la résoudre au niveau des sentiments, sinon on fait fausse route. Alors, là, on voit que par rapport aux idées, il y a différentes façons de réagir. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un crayon ? Non, bon, c'est pas grave. Il y avait un schéma qui me plaisait assez. C'était, il mettait une verticale, une horizontale, et alors une qui était plutôt dans le sens de l'efficacité. Alors, on va prendre une décision, on va faire avancer les choses. Ça, c'était plus au niveau de l'efficacité, parce qu'il faut agir. Et la deuxième, verticale, c'est plus au niveau de la relation. Est-ce que la relation entre les conjoints progresse ? Et dans le dialogue, il y a un peu ces deux composantes, dialogue au niveau des idées, à prendre en compte. Une question d'efficacité, dans le sens, il faut aussi apprendre, il faut avancer quand même et arriver à prendre une décision, alors peut-être pas tout de suite si c'est pas mûr ou tout ça. Et puis une autre composante qui est celle de la relation. Est-ce que notre relation va grandir ? C'est un peu la même chose pour nous, donc on a notre réunion de communauté chaque semaine. Et on voit bien que selon les réunions de communauté, c'est tel ou tel axe qui est privilégié. Certaines fois, bon, on est un peu pressé de prendre une décision, ou certaines fois, il faut aussi prendre des décisions sans attendre 107 ans. Et du coup, on prend la décision, mais pas sur un fond d'unanimité, mais plus un fond où on n'est pas vrai, où les uns et les autres ne sont pas vraiment en paix avec cette décision qui est prise. Alors, au niveau efficacité, peut-être que ça a été bon. Mais au niveau de la relation avec les personnes, on y a perdu. Et d'autres fois, en revanche, Bon, on essaie de beaucoup soigner la relation entre les personnes et tout ça, et du coup on ne prend pas de décision et puis on fait du sur place. Donc dans le dialogue, il y a un peu, alors là dans un livre, il mettait un peu cinq modes un peu de principaux de réaction selon qu'on privilégie plus ou moins l'un ou l'autre. Il mettait, bon, première chose, on évite l'affrontement. Donc on ne parle pas du problème, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Alors là, c'est du sur place et au niveau de la relation et au niveau de l'efficacité et au niveau de trouver une solution. Après, une autre façon, c'est, bon, il y en a un qui prend les choses en main, donc il a tendance à dominer l'autre. Donc l'objectif sera peut-être atteint, mais la relation, elle ne sera pas meilleure entre l'époux et l'épouse. Ou alors, inversement, il y en a un qui se cède, qui se sacrifie, donc pour pas faire de vagues. Et finalement, la relation, elle ne va pas grandir non plus tellement. Et après, il y a le compromis, où bon, on arrive à en parler un petit peu, on arrive à se mettre d'accord, mais chacun n'est pas vraiment satisfait. Et du coup, c'est une solution un peu intermédiaire. Et la cinquième solution, c'est vraiment d'apprendre à collaborer. Alors, c'est ardu de collaborer. Alors, bon, c'est pour des grandes questions, hein. Je pense pour la vie conjugale, par exemple, on va pas en faire tout un plat s'il y a une petite décision de la vie quotidienne à prendre, mais si on prend la décision d'accueillir un nouvel enfant, de changer de travail, de déménager ou tout ça, alors là, c'est des décisions qui impliquent aussi davantage de. Enfin, que ça ne soit pas subi complètement par l'un ou par l'autre. Peut-être sauter quelques petites choses pour revenir sur la question de la liberté. Parce qu'il me semble que dans le dialogue, une des choses difficiles, je l'expérimente aussi en vie communautaire, c'est de respecter profondément l'autre et d'apprendre soi-même à être libre. Par exemple, c'est souvent difficile de demander quelque chose à l'autre. Enfin, ça dépend, pour des petites choses, c'est peut-être pas. Mais c'est pas toujours facile de vraiment bien demander à l'autre quelque chose. Parce qu'il y a un peu de travers extrême. Enfin, surtout quand le climat est un petit peu tendu. Comme on a peur que l'autre refuse, on ne demande pas. Alors on est sûr d'être un peu frustré parce que l'autre, il va pas au-devant forcément de nos désirs. Soit inversement, ça je trouve que c'est assez présent selon notre tempérament, tout ça. Comme on a trop peur que l'autre refuse, on le coince un petit peu pour qu'il soit obligé d'accepter. Alors, il y a bien des façons de coincer un peu l'autre. Soit on lui demande à la dernière minute, de toute façon, il y a plus moyen de s'échapper. Soit on le culpabilise, soit bon, on lui fait une scène, soit je ne sais pas. Mais je trouve personnellement que c'est très difficile de demander en étant très détaché de demander ce dont on a vraiment besoin ou ce qui nous semble bien et bon. Mais en laissant l'autre vraiment libre de me dire oui ou non. Et dans nos façons de demander, et ça fait vraiment partie du dialogue, je crois, de laisser à l'autre la liberté de pouvoir me dire vraiment oui ou vraiment non. Et dans la façon de demander, on sent bien, alors j'étais aussi supérieur quelques années ici, c'est évident quand un frère vient nous voir. Soit qu'il est vraiment désintéressé, dans le sens on peut dire oui, on peut dire non, il prendra la réponse comme elle vient, bon. soit on sait qu'on n'a pas le droit de dire autre chose que ce qu'il a envie d'entendre, sinon ça va être la crise. Alors certaines fois, il faut peut-être le dire quand même, même si c'est la crise, mais je pense que certaines fois, il faut le faire quand même. Mais certaines fois, on sent bien. On sent bien qu'on n'a pas le droit. Certaines fois, on sent aussi que l'autre, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'autre, et ça demande d'en parler un peu plus longuement pour comprendre et pour... Mais on sent bien quand quelqu'un vient nous demander quelque chose, s'il y a la pression là derrière pour qu'on soit obligé. Ou... Alors, mais en couple et en communauté, c'est pas très, toujours très facile. Le fait de demander, le fait de donner aussi, parce que c'est accepter que l'autre accepte ou n'accepte pas, ou accepte bien ou accepte pas très bien ce que je veux lui donner. Alors c'est vrai, quelquefois on peut être blessé, on a essayé de donner à l'autre, et puis l'autre en fait l'a mal pris. Ou... Voilà. Ou aussi de refuser. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que l'autre me demande. Et quelquefois, il faut refuser ce que l'autre, il faut refuser. Mais alors, ça suppose d'être assez libre aussi intérieurement dans le dialogue, pour même si l'autre se met en crise. Bah oui, il se met en crise, mais peut-être le critère, c'est qu'est-ce que Dieu veut. C'est pas d'abord d'éviter la crise. Sinon, c'est on évite la crise. Mais alors, dans certains cas, il vaut mieux la reporter un peu plus tard parce que les circonstances sont un peu difficiles, donc il faut ménager un peu les choses. Mais d'autres fois, moi, il faut être assez libre pour refuser à l'autre sans d'agressivité, mais et puis accepter que l'autre ne sera pas content. Il faut que je passe un certain nombre de choses, sinon. Peut-être justement, je vais reprendre un petit exemple de vie communautaire. Aussi pour les dialogues, le dialogue, il y a aussi des situations très très concrètes qui favorisent ou qui ne favorisent pas le dialogue. Je me rappelle d'une réunion. Donc c'était le matin, déjà plus ou moins réveillé. Et puis on arrive dans un bureau avec vraiment du fourbi partout. On ne pouvait à peine mettre ses mains sur la table, tout ça, tellement il y avait de fourbi. Inutile de dire que la réunion n'a pas été vraiment un franc succès ce jour-là. Le fait de ne pas être, déjà physiquement, pas être très à l'aise, tout ça, ça fait que, bon, c'est tout simple, mais on n'est pas en... On n'est pas des extraterrestres. Mais selon les circonstances aussi très extérieures, ça favorise ou ça ne favorise pas. Ou si c'est aussi le moment de la journée, on est fatigué en fin de journée, et tout ça, il y a eu pas mal de soucis. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour se poser, pour dialoguer profondément. Il y a aussi le fait, mais ça dépend aussi beaucoup des personnes. Mais si on sait que le téléphone risque de sonner dans les 2 minutes qui suivent, il y en a, ça les bloque d'entrée de jeu, ou s'ils savent qu'on risque d'être dérangé, ou je ne sais pas, dans le dialogue, alors ils n'osent pas commencer à s'ouvrir un petit peu intérieurement, parce que déjà, d'entrée de jeu, ça les bloque. Alors, il y a des petits éléments extérieurs. Alors après, c'est aussi, comme je disais un petit peu avant, d'apprendre à se dire, mais qu'est-ce qui m'aide, quel est le climat aussi qui m'aide, qui me rend plus facile le dialogue. Alors après, on peut pas toujours trouver les circonstances idéales, hein, mais quand on le peut, autant mettre les chances de notre côté pour faciliter le dialogue, parce que... Ou alors certaines fois aussi, quand c'est un moment où la souffrance est un peu trop vive, c'est pas forcément le moment d'entamer un long dialogue parce qu'on est plus à fleur de peau et bon. Après bon, c'est un peu une question de prudence et donc voilà. Je vais peut-être dire quelques mots rapides sur le pardon, et puis après je passe aux questions, c'est ça? Ouais, bon, on pourrait dire beaucoup, beaucoup sur le... Le pardon... Ce qui me semble... Deux, trois points qui me semblent importants pour le pardon, c'est déjà de bien voir qu'est-ce qu'une offense. Dans le sens où... il y a des choses qui ont peut-être blessé ou qui ont peut-être fait du tort, mais qui ne demandent pas forcément de pardon. Je ne sais pas comment... Je prends un exemple... quelqu'un est embauché dans une entreprise. De fait, objectivement, il ne fait pas trop l'affaire, tout ça. Et c'est son ami qui est à la tête de l'entreprise. Finalement, au conseil d'administration, il semble clair qu'il faille le licencier. Bon, alors, ce n'est pas forcément des situations très faciles, mais... il essaye de... Alors, puisque c'est son ami, il essaye de le faire dans les conditions les plus correctes possibles, disons. Mais alors, bien sûr, celui qui est licencié le ressent comme une offense et le ressent douloureusement, ce qui est évident. Mais est-ce qu'il y a une offense ? Non. Si ça a été fait dans la justice, il n'y a pas forcément d'offense. C'est juste un exemple parmi tant d'autres pour montrer qu'il faut bien voir aussi où situe l'offense. Parce qu'il y a des choses qui nous font mal, mais qui ne sont pas forcément une offense. Bon, je ne sais pas, le médecin qui commence à nous triturer, le chirurgien qui commence... Il nous fait mal, hein, mais ce n'est pas une offense. De bien voir où situe l'offense, parce que une offense, ça, c'est lié à une injustice, une certaine forme d'injustice. Quelque chose, bon. Mais bon, je n'ai pas le temps de développer. Après, le pardon, le processus peut-être du pardon, c'est de faire bien la distinction aussi entre la décision de pardonner, on en revient toujours à la volonté, qui est, c'est toujours très central quand même, la décision de pardonner et le fait de ressentir le fait d'avoir pardonné. C'est quand même deux choses complètement différentes, enfin qui vont quand même un petit peu ensemble, mais bien distinctes quand même. Parce que le pardon, c'est pas d'abord un sentiment, c'est un acte. Vous connaissez sans doute cette histoire de Maïti Gertaner. C'est une jeune femme qui avait été torturée par les nazis, etc. Qu'ils ont laissée quasi morte. Et puis finalement, bon, c'était la libération. Et donc elle a survécu, mais avec beaucoup de souffrance, en étant souvent devant être allongée, souvent, etc., dans la souffrance, parce qu'ils avaient trituré sur les centres nerveux, etc., pour la faire souffrir, justement, parce que c'était le but. Et elle avait demandé cette grâce de pardonner au médecin qui l'avait, SS, qui l'avait torturée. Mais elle ne savait jamais trop si elle avait pardonné ou pas. Sauf que 40 ans après, en 84, elle a reçu un coup de fil. Aussitôt, elle a reconnu la voix de celui qui avait fait des recherches pour la retrouver, parce qu'il était atteint d'un cancer et il cherchait. Et il l'avait entendu parler de la mort et Jésus à ce moment-là. Il ne venait même pas de façon pour demander pardon ou tout ça, au point de départ. Il venait pour se faire aider lui, quoi. Parce qu'il avait peur devant la mort. Et là, elle s'est entendue dire, parce que c'était... Mais la chose avait déjà beaucoup travaillé en elle, mais venez. Et alors après, donc, c'était le... Bon, c'était un moment assez fort aussi, où il est venu, et où elle n'a pas dit non plus, c'est rien, hein, tout ce que j'ai vécu. Mais au terme de leur entretien... Il lui a demandé pardon. Et après, il lui a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour pour racheter en quelque sorte, réparer en quelque sorte. Et donc, il y a eu vraiment une porte qui s'est ouverte pour cet homme. Mais pour en revenir à l'acte du pardon, elle avait désiré pardonner, mais elle n'était jamais sûre d'avoir pardonné. Elle se disait, mais s'il est devant moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne peux pas le prévoir, forcément. Donc, mais bien distinguer entre cette volonté de pardonner, et puis peut-être, quelquefois, on a cette volonté, et puis il y a des choses qui nous reviennent à la mémoire, tout ça, pas très facile. Bon, mais ça mériterait quand même d'y parler un peu plus longuement. Et puis de demander la grâce de Dieu pour le pardon. Parce que à un certain moment, on sent bien qu'il y a peut-être un petit exemple. Je le raconte de temps en temps. C'est quelqu'un qui m'avait fait du mal. Et j'étais en retraite et ça me revenait à l'esprit. Alors on voit bien comment ça se passe dans ces cas-là. On remue ça dans notre tête. On le considère sous tous les angles et tout ça. On le sous-pèse. Bon. Puis à un moment, j'ai bien senti qu'il fallait aller que je passe à l'acte. C'était plus le moment de sous-peser dans tous les sens et de voir. Bon, allez, est-ce que tu pardonnes, oui ou non? Point. Mais je cherche pas à. Sinon, tu t'en sors pas. Et à ce moment-là, donc, avec la grâce de Dieu, je dis bah oui, d'accord, je pardonne et je veux quelque chose de concret pour manifester cette décision de pardonner. J'écrirai à cette personne à la fin de ma retraite. Bon. Et puis de fait, je reviens, tout bon. Et puis je suis repris par les choses, j'ai pas écrit. C'est pas bien, hein. Mais c'est là que le Seigneur est bon. J'ai reçu une lettre de cette personne qui avait aucune raison de m'écrire à ce moment-là, qui était datée du jour où j'avais pardonné. Pour moi, ça a toujours été assez marquant. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a un déclic qui s'était passé à ce moment-là. Mais comme quoi, quelque chose s'était dénoué dans l'invisible, à des dizaines ou centaines de kilomètres, d'une façon un petit peu mystérieuse, mais quelque chose s'était dénoué. Mais donc, cette décision, bon, et puis. Alors, mais ça, je pense que c'était aussi une grâce, quelquefois, on peut. Bon. Voilà. Alors, je vous laisse la place à quelques questions faciles. Bon, allez-y.
J'en ai une. Oui. Ce matin, on a parlé de mariage, on a parlé de dialogue, d'offense, pardon. Est-ce que vous pensez que dans un ménage, toute vérité est bonne à dire?
Non.
Est-ce que c'est transparent en fait, si on veut avoir la pleine confiance de l'autre, est-ce qu'il y a des choses de sa vie que l'on peut ou que l'on doit éventuellement cacher pour éviter, pourquoi pas, de faire du mal?
Oui, tout à fait. Au départ, moi j'étais un peu naïf. Je disais si, transparence, il faut tout dire. Et maintenant, je dis plus ça. Parce que, de fait, ça, il faut voir un petit peu le but aussi de cette transparence. Est-ce que, je prends le cas typique de l'infidélité, faut-il le dire ou pas sans... Bon, je ne prêche pas pour l'infidélité, hein. Ça doit être clair. Mais, il faut voir, il faut voir parce que quand je le dis à l'autre, quel est mon but profondément? Quelquefois, c'est pour décharger ma culpabilité. C'est vrai que je suis coupable et gravement coupable parce que ça, c'est une des choses les plus, je crois, une des souffrances les plus grandes qu'on peut faire vivre à quelqu'un, c'est de l'infidélité. Mais en le disant à l'autre, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je cherche à me soulager et puis comme ça je dirais bon, je suis transparent, j'ai tout dit, j'ai rien sur la conscience? Ben non, c'est pas ça le but. Qu'est-ce que l'autre est en mesure d'entendre ou de pas entendre dans la phase qu'il traverse? Alors peut-être qu'il idéalement, je suis quand même plutôt pour la transparence et de dire à son conjoint, mais quand je dis les choses à l'autre, quel est mon but? Est-ce que c'est pour me décharger moi et puis du coup, ou est-ce que c'est parce que l'autre a besoin de l'entendre et a le droit de l'entendre et j'ai le devoir de lui dire? C'est autre chose. Si j'ai le devoir de lui dire, c'est clair que je dois lui dire, mais certaines fois, ça ne me semble pas évident qu'il faut. Alors, dans l'idéal, il faut dire le maximum, mais certaines fois, l'autre n'est pas en mesure de porter, on lui met un fardeau qu'il n'est pas capable de porter. Mais c'est une question très très délicate. Très délicate quand même. D'évaluer à partir de quel moment dire ou pas dire. Mais
il y a quand même une question de confiance vis-à-vis de l'autre.
Mais quelquefois, ça fait justement un peu l'effet inverse. Quand on. Oui. Mais le problème de la confiance, ça a été quand on a trompé.
Oui.
Hein, c'est là où la confiance a été où on a entamé gravement la confiance, ça c'est vrai. Mais le fait de lui dire est-ce que ça aidera à la confiance, ben quelque part ça déstabilise tellement l'autre qu'après il ne peut plus faire confiance. Alors qu'est-ce que, enfin c'est pas
la question de c'est peut-être aussi avant le mariage, non, peut-être.
Oui c'est ça, mais enfin, je pense surtout par exemple actuellement c'est vrai que dans la mesure où, si jamais ils vivent avec quelqu'un avant le mariage, dans la mesure où ils ont le pardon de Dieu, est-ce qu'ils doivent absolument obtenir le pardon de leur conjoint, enfin, tout dire pour que ce soit vraiment une transparence complète? Alors, vous parlez de dialogue, mais je suis assez d'accord avec vous. Est-ce qu'on a le devoir? Parce qu'on ne doit pas attendre de l'autre qu'elle soit en mesure d'écouter ce qu'on a à lui dire. C'est un peu ça, quelquefois.
Il faut. Il n'y a pas une réponse toute faite, je pense. Il faut que l'autre soit en mesure de pouvoir l'entendre. Quelquefois, on fait plus de dégâts en disant les choses qu'en ne les disant pas. Là. Dans l'idéal, il vaut mieux le dire. Hein. Dans l'idéal, il vaut mieux le dire. Dans
la circonstance, ça, c'est avant le mariage, donc vous êtes bien posé les.
Oui, au moment de la période de fiançailles, voilà, ma vie précédente, ça a été ça. Enfin,
je crois qu'il vaut mieux essayer de le dire, parce qu'en fait, l'autre, une fois qu'il le sait, il peut très bien aussi servir de protecteur, voir des signes qui font que l'autre va retomber dans quelque chose. Et moi, je crois que c'est bon de le dire.
Dans l'idéal, oui.
Presque en lui demandant, même, c'est là où on lui demande pardon. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait un truc, et en venant lui, le voir en demandant pardon après, pardon pour ce que j'ai fait, etc. Et puis en même temps, tu peux lui dire, ben, je compte sur toi pour prier pour moi quand le moment.
Est-ce que la blessure peut pas être, je sais pas, dans la mesure, je vois ça surtout du point de vue spirituel, à partir du moment où il y a eu quelqu'un de se marier religieusement, donc il y a confession, est-ce que il doit également se confesser à sa fiancée ou à sa femme? Sauf effectivement si c'est une demande de sa part, dit est-ce que tu peux me dire
ça arrivera un jour ou l'autre,
il vaut mieux parce que tu l'auras au fond de toi, au fond de toi-même, et quelque part tu auras besoin certainement du pardon de Dieu, mais aussi peut-être du pardon de l'autre, parce que tu es tel que tu es et tel que tu étais avant, et la grâce, moi je crois que la grâce du mariage, ça.
Mais il y a une grosse différence effectivement entre ce qui s'est passé avant, où on va dire allez, on décide de partir ensemble, et puis on met un petit peu plus sur la table pour que l'autre soit relativement et effectivement on puisse l'aider, et puis que la décision finalement de partir ensemble elle soit avec tous les éléments, on va dire, qui permettent de prendre la décision en disant non, pour moi c'est pas acceptable, donc je peux pas me marier avec un homme qui a connu une autre femme. Bon, t'as le problème réglé. Parce que si jamais cette information arrive après et que la personne pense ça, donc j'ai fait une erreur en me mariant. Alors là, on est vraiment pas bien. Mais par contre, une fois qu'on est dans le mariage, effectivement, là, c'est beaucoup plus nuancé.
Donc je pense que Dieu pardonne.
C'est enregistré, hein.
Mais je sais pas comment l'enlever. À ce que disait Philippe, il y a quelque chose qui est très délicat, je trouve, dans la vie conjugale, c'est, c'est à partir du moment où on a effectivement offensé l'autre et où on lui demande pardon. Et l'autre n'est pas forcément obligé de pardonner.
Tout à
Il
fait.
N'est pas forcément en mesure de pardonner sur le moment. Parce qu'il ne veut pas, etc. Et du coup, le pardon n'étant justement pas forcément exprimé, ou alors carrément pas fait, et bien en fait, il y a une espèce de. En fait, le fait de demander pardon, c'est un petit peu aussi, finalement, passer la balle à l'autre. Hein. C'est un côté. C'est bien, mais c'est un côté un petit peu facile. Finalement de passer le fardeau à l'autre et puis dire maintenant la balle est dans ton camp et c'est à toi de pardonner parce que moi j'ai demandé pardon donc maintenant j'ai fait la bêtise, ok, mais j'ai demandé pardon donc un partout à toi de jouer quoi,
c'est plus difficile de demander pardon ou pardon.
Autrement dit, est-ce que le pardon peut se faire sans repentir? Vous citiez votre cas personnel, la personne n'avait pas exprimé de repentir
dans l'autre sens.
Je pense que effectivement, ça peut se faire même s'il n'y a pas de repentir de l'autre côté. Mais je prends un exemple. La personne est déjà morte, la personne qui m'a offensé. Ben, j'espère que je peux lui pardonner parce que, sauf si elle vient me trouver la nuit en me secouant. Si, je te demande pardon finalement. Mais dans un certain nombre de cas, c'est pas possible. J'avais été très surpris. Il y avait un article sur le pardon et il y avait 12 étapes pour pardonner. Et la 12e étape, c'était renouer le dialogue ou quelque chose comme ça, ou rompre la relation. Alors, rompre la relation, la première fois, je me suis dit non, il y a peut-être une faute de frappe ou je ne sais pas. Mais en fait, oui, c'est. Pardonner, veut pas, c'est pas la même chose, pardonner et réconcilier. Pardonner, on peut être tout seul pour pardonner. On n'a pas besoin d'attendre l'autre. Réconcilier, il faut être deux. Et avec certaines personnes, on ne pourra pas se réconcilier. Alors l'idéal, c'est de se réconcilier, ça je suis bien d'accord. Mais effectivement, si l'autre ne veut pas se réconcilier, ben, on est face à sa liberté. On peut pas. Alors après, peut-être qu'on n'a pas mis tous les moyens en œuvre aussi. Bon, je ne sais pas, la faute n'est peut-être pas que de l'autre côté, mais quelquefois... Alors la réconciliation n'est pas toujours possible parce qu'il faut être deux pour se réconcilier et si l'autre ne veut pas, ben voilà. En revanche, le pardon, Jésus nous demande toujours de pardonner, que l'autre le regrette ou pas.
Il y a des choses qui sont assez délicates, par exemple quand le pape a demandé pardon dans différentes circonstances au peuple juif, aux autres chrétiens. Finalement, ça s'est un peu arrêté là. Ça s'est un peu arrêté là, parce qu'après, bon, ok, la demande de pardon a été reçue, mais il n'y a pas eu forcément la parole inverse. Ok, je te pardonne.
Ouais, à vrai dire, Jean-Paul II avait bien prévu le coup, parce que, en un sens. Parce que d'un côté il y avait ces demandes de pardon et puis après au mois de mai de l'année 2000 il y avait aussi, il a célébré les martyrs aussi qui sont, donc il y a eu les demandes de pardon de l'Église et puis aussi l'Église qui a célébré tous ceux qui ont été tués injustement aussi, quelque part ça faisait un peu le pendant. Bon, l'Église a pu être bourreau d'un certain côté mais elle était aussi victime de l'autre côté quoi. Bon, mais effectivement.
Juste une chose, par rapport aux juifs, je dirais que pour la majorité, c'était accueilli. Hein. C'est que le souvenir, on a vu dans les témoignages justement à ce moment-là, c'est qu'on demande aux juifs qu'est-ce qui les a marqués dans le cas de Paul II, c'est ça. C'est qu'il dit il y a trois moments extrêmement importants qu'il a vécu, et eux, c'était une transformation. Eux, ils disent il y a un avant et un après. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de fort spirituellement qui a été vécu. Alors, après, dire, disons, renvoyer le message par écrit, bon, c'est pas la même structure non plus. Hein. Il y a une structure ecclésiale qui fait qu'on a quelqu'un qui est notre représentant pour tous les églises catholiques. Dans d'autres moments, c'est différent. Mais je pense que ça, le pardon, on le transmet, une puissance spirituelle qui est à travers le pardon qui est demandé ou donné. Et après, c'est dans les mains de Dieu.
Oui, de toute façon,
et je crois que c'est ça qui est le plus
Tu voulais dire
en regardant, ce n'est pas renier ce qu'on a fait, en fait. Le fait de demander pardon, je disais tout à l'heure que c'était un petit peu passer le bébé à l'autre. Je pense que la démarche d'aller demander pardon pour un acte qu'on a fait, qui peut être offensant effectivement pour le conjoint, c'est reconnaître effectivement sa culpabilité et sa faute, et qu'on la porte toujours, puisque le fait a eu lieu.
La faiblesse.
C'est reconnaître aussi sa faiblesse et attendre peut-être alors dans la phase de réconciliation. C'est pas une démarche facile de dire je demande pardon.
Non, mais à partir du moment où on arrive à la faire, finalement, c'est vrai que derrière, c'est un côté pas, entre guillemets, pas très sympa pour l'autre, parce que c'est vrai qu'on lui donne un petit peu, on lui donne un peu le bébé quand même. Parce que bah, nous, on l'a fait la démarche, et puis on dit bah, et toi, qu'est-ce que tu fais, quoi.
Alors après, aussi.
Non, on le dit pas, mais.
Dans la démarche du pardon, c'est pas simplement aussi aller déposer le fardeau puis tu te débrouilles avec. C'est aussi. C'est se rendre. Je pense que c'est l'idéal, en tout cas, c'est de pouvoir à ce moment-là avoir un dialogue, justement, au moment du pardon, et de comprendre aussi un peu plus profondément pour notre part, voilà ce que j'ai fait. D'être accessible aussi que l'autre nous exprime sa souffrance, de la comprendre un petit peu plus. Je pense que pas simplement, sinon ça reste presque un petit peu extérieur, voilà, je te demande pardon pour telle chose, mais d'accepter que l'autre nous dise ben voilà voilà cette souffrance. Et comment on la porte à deux maintenant, enfin comment on avance à deux. C'est pas, sinon l'important du dialogue au bout du compte, c'est que on fait pas deux mais on fait un, c'est de qu'il n'y ait pas un vainqueur, un vaincu ou un peu deux camps pour celui qui est, mais bon, c'est à deux qu'on porte les choses.
Souvent, pardonner, c'est quand même accuser l'autre, en disant c'est toi le coupable et je te pardonne. Donc à mon avis, c'est le dialogue, il faut qu'il y ait une démarche conjointe, que chacun reconnaisse finalement ses torts pour arriver à un pardon mutuel. Parce que si c'est un pardon à sens unique, ça peut être justifié dans des cas très clairs, mais...
L'objectif, c'est la réconciliation.
Je te pardonne, votre cas... Mais en le pardonnant, ça peut être aussi c'est toi qui as tort, mais je te pardonne.
Mais le pardon, avant même d'être exprimé, c'est déjà de. Je me rappelle une fois, donc j'étais allé voir un frère. On n'a aucun péché, nous, hein, on est parfait, mais ceci dit, il arrive. Bon, alors j'étais allé voir le frère, bon. Donc, avant, heureusement, j'avais pris un petit moment de prière, tout ça. Bon. En fait, il m'a envoyé promener. Alors, bon. Bon, c'est sa liberté aussi. Après, il n'était peut-être pas prêt, il était. Bon. Mais avant que ça soit formulé à l'égard de l'autre. C'est d'abord quelque chose qu'on vit à l'intime de, vis-à-vis de Dieu, je crois. Je pense qu'on a besoin de reconnaître son, oui, de se reconnaître son péché, de reconnaître sa culpabilité, déjà devant Dieu, et aussi pour voir comment demander pardon, parce que souvent c'est pas blanc ou noir, c'est dans la façon, on s'est énervé et tout ça, mais sur le fond, notre idée, on pense qu'elle était juste. Mais on s'est énervé en le disant. Alors là, c'est sur l'énervement, on demande pardon. Sur l'idée, non, on demande pas pardon parce que bon, on pense que c'était quand même la bonne idée. Je sais pas. Je pense que c'est important aussi de faire une demande claire de pardon parce qu'on demande. Thérèse de Lisieux le disait bien aussi vis-à-vis de ses novices. Parce que sinon, si l'autre il comprend plus très bien le message, alors finalement tu tiens pas à cette idée-là. Si, j'y tiens toujours. Mais c'est de bien voir de quoi on va demander pardon à l'autre aussi.
Donc en fait, quand on se sent coupable, on demande pardon, il faut faire cet acte, exprimer cette demande. Par contre, quand on se sent victime, il ne faut pas forcément exprimer spontanément le pardon.
Ah ben
ça
non,
peut
non,
être
non.
Offensant. Par contre, c'est dans l'attitude montrer qu'effectivement, et c'est un travail personnel, intérieur, mais j'irai point. Après, on répond s'il y a une demande, mais...
Chaque semaine, le lundi, c'est pour ça on met tout le monde dehors, que tout le monde n'écoute pas les horreurs. On a notre messe avec les coulpes. Donc les coulpes, c'est assez clair. Bon, c'est des hauts forts externes, donc c'est ce qui peut se voir extérieurement, grosso modo. C'est pas les sentiments intimes qui nous habitent qu'on confesse devant tout le monde. Mais on dit, voilà, je demande pardon parce que je me suis mis en colère à la vaisselle l'autre jour, ou je sais pas, ou je demande pardon parce que j'ai fait des excès de vitesse, ou je sais pas, enfin bon, il peut y avoir plein de... Mais les proclamations, on les fait extrêmement rarement. Hein. C'est deux choses complètement distinctes, parce que c'est un domaine extrêmement sensible. Bon, demander pardon pour soi, bon, ça c'est une chose. Mais après, de dire les proclamations, c'est dire, ben oui, frère Intel, ça n'a pas été très sympa. Alors ça, on ne le fait pas. Habituellement, on évite. On l'a fait telle ou telle fois, mais par l'intermédiaire du supérieur. On lui disait, lui trier un petit peu, et puis il resservait de façon à peu près délicate. Mais c'est toujours délicat. Hein. Ça, c'est vrai. Sinon, on accuse.
Et puis c'est surtout qu'on attend le pardon. On attend que l'autre vienne nous demander pardon. C'est un peu...
On peut, dans ce cas-là, on peut pardonner vis-à-vis de Dieu, si je peux dire.
Oui,
on peut
pardonner
l'autre par l'intermédiaire de Dieu, mais on n'a pas à aller lui dire
oui,
je pardonne.
Tout à fait. On peut lui exprimer plutôt par des gestes. L'autre, il comprend bien si on se fait proche de lui, tout ça, qu'on lui a pardonné. On voit bien. Hein, on sent quand c'est un peu bloqué. Certaines fois, il n'y a pas des...
On le fait avec des enfants, par contre.
Ah oui, alors éduquer les enfants pour qu'ils se demandent pardon l'un à l'autre et tout ça, oui. Non, c'est vrai que c'est important d'éduquer les enfants, pardon.